On va voir à travers Exode quand Dieu vient visiter un peuple. On va voir à travers Exode la grâce de Dieu qui vient visiter un peuple, et c'est notre prière pour ce qui est en train de se passer en Ukraine actuellement. À travers Exode, on va voir quand Dieu vient sauver, quand Dieu vient conduire, puis quand Dieu vient habiter. Quand Dieu vient habiter parmi son peuple. Quand Dieu vient sauver un peuple, quand Dieu vient conduire un peuple, puis quand Dieu vient habiter. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? C'est parce que si vous prenez ces éléments-là, si vous prenez le récit de l'Exode, Israël est en esclavage, délivré par l'Éternel, conduit au désert pour former une alliance, en direction vers la terre promise, je vais appeler ça un motif, d'accord? Prenez ça comme un motif. Ce motif-là est super important pour comprendre l'ensemble de la Bible. C'est une des images qui revient le plus souvent à travers les Écritures. En fait, dans le Nouveau Testament cite premièrement le prophète Ésaïe, deuxièmement les psaumes, troisièmement fait allusion à l'Exode. Donc, c'est super présent. Puis même la Bible se termine en Apocalypse 21 avec cette idée que Dieu vient et Dieu va habiter. Donc, la tente de Dieu est présente, le tabernacle de Dieu qu'on voit en Exode est là et Dieu va habiter au milieu de son peuple. Fait que cette image-là de l'Exode est super importante pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu et pour comprendre comment Dieu intervient dans nos vies. J'irais plus loin et je dirais que chacune de nos conversions, chaque personne qui vient à la connaissance de Jésus-Christ vit un Exode, vit l'Exode où j'étais esclave, je servais d'autres maîtres qui ne voulaient pas mon bien. Jésus-Christ vient dans ma vie, me sauve, me conduit et habite littéralement en moi par son esprit. J'attends simplement d'entrer dans la terre promise au retour de Christ. Donc, c'est vraiment un motif très, très fort. Ça va être une bénédiction, je pense, pour toute l'Église de passer plusieurs exposés. Je pense qu'on va avoir à peu près 40 messages sur 2 ans dans Exode, d'accord? Donc, on va vraiment explorer ce livre-là ensemble. Ma question avant de prier, c'est est-ce que toi, tu as vécu cet Exode-là avec Christ? Ou est-ce que tu es encore en train de chercher Dieu et Dieu veut se faire connaître à toi et te conduire, comme il va le faire avec Israël, au désert pour conquérir son cœur puis forger une alliance avec Israël? Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais j'espère que Dieu va te rencontrer ce matin. On va prier. Seigneur Jésus, tu es venu me rencontrer alors que je ne te connaissais pas. Tu t'es fait connaître à moi, Seigneur, alors que j'étais esclave, servant toutes sortes de passions, servant des maîtres qui ne voulaient pas mon bien. Et Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as fait connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Tu m'as conduit hors de l'esclavage, à travers la mer que moi j'avais à traverser, Seigneur. Et tu me conduis encore aujourd'hui, tu habites avec moi. Je te prie, Seigneur, de venir nous parler ce matin par ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit vie en nous. Que ce ne soit pas simplement le récit de Moïse, le récit d'Israël, mais que par la puissance de ton esprit, tu viennes appliquer ce récit, Seigneur, dans nos vies, à chacun d'entre nous, dans la vie de cette assemblée. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures.
Bonjour. Alors, on avance dans Exode. On est rendu au chapitre 3, les versets 1 à 22, dans la nouvelle édition de Genève. Exode 3, 1 à 22. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. » Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de votre père m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. »
Merci, Astin. C'est intéressant, à travers le livre d'Exode, il y a comme 3 personnages, si je peux dire, qu'on va apprendre à connaître beaucoup. Il y a évidemment Dieu, il y a Moïse, puis on va apprendre à connaître beaucoup de choses sur Moïse, puis on va pouvoir s'identifier à lui par moment, et il y a le peuple d'Israël. En somme, je dirais que c'est les 3 personnages. On pourrait dire Pharaon, mais Pharaon, c'est un personnage un peu secondaire. Puis ce qui est intéressant avec Moïse, c'est que tout commence pour Moïse, on peut dire, lorsqu'il a 40 ans. On a lu la portion d'Exode 3, 1 à 22, mais ce matin, on couvre même le 2, 11 jusqu'à la fin. Donc, ce moment où Moïse va vouloir assumer son identité d'Hébreu entièrement. Et tout ça va commencer à 40 ans. Donc, je ne sais pas quel âge tu as, mais à 40 ans, Moïse va croire qu'il a découvert son appel. On va voir ça ensemble ce matin. Puis en fait, il a besoin de 40 ans de plus pour vraiment entrer dans son appel au moment où il n'y croit plus du tout. Fait que je ne sais pas quel âge tu as, mais Dieu peut faire des choses incroyables avec nous lorsqu'on le rencontre. Quel que soit l'appel qu'il a placé sur ta vie, on va parler un peu de ça ce matin. Lorsque Dieu intervient, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 60 ans, que tu aies 70 ans, Dieu peut se servir de toi. Et Dieu va commencer à le préparer sérieusement à 40 ans. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Moïse avait de bonnes intentions, mais il devait rencontrer celui qui a la capacité de délivrer, l'Éternel Dieu. Premier point, un cœur de libérateur, mais la faiblesse humaine. Moïse a une histoire assez extraordinaire. Lors d'un génocide des mâles hébreux, Moïse est épargné. Finalement, il est pris dans la maison de Pharaon et il va être élevé comme le fils de la fille de Pharaon, donc le petit-fils de Pharaon. Puis, il va être élevé une partie du temps aussi par sa mère naturelle. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que Moïse a été élevé, a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, même Étienne dans le Nouveau Testament, dans Acte 7. Si vous voulez lire aussi dans Acte 7, vous allez en apprendre encore un peu plus sur Moïse. Mais la tradition hébraïque et Étienne nous disent que Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, Moïse connaissait ses racines hébraïques, mais avait toute la sagesse des Égyptiens. C'est une histoire vraiment particulière. Puis lorsqu'il arrive à 40 ans, bien on voit qu'il n'a pas perdu ses racines. Il y a peut-être même une espèce de quête d'identité. Il veut retourner vers ses racines. Il sort de la maison de Pharaon. Il est un prince en Égypte. Il vit dans l'opulence, dans la richesse. Il est respecté. C'est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Puis là, il décide de quitter la maison de Pharaon pour aller vers les siens. C'est ce que le texte nous dit. Il s'en va vers les Hébreux pour voir quelle est leur condition. Il découvre leur souffrance. Et là, Étienne, dans Acte 7, nous dit, « Moïse fut convaincu que Dieu l'appelait à libérer son peuple. » Il commence à se dire peut-être un peu comme Esther. Si vous connaissez le livre d'Esther, Dieu avait placé Esther en position où elle a pu intercéder en faveur du peuple d'Israël. Bon, mais Moïse se dit, « Écoute, je suis prince dans la maison de Pharaon. En fait, je suis un Hébreu. Dieu semble m'avoir placé un endroit où je vais pouvoir aller délivrer mon peuple. Dieu va se servir de moi. Il m'a placé au bon endroit politiquement. C'est génial, je vais pouvoir aller plaider la cause. Plaider la cause de mon peuple. » Moïse a un cœur de libérateur. Et donc, il décide d'intervenir. Je viens dans un passage juste avant la lecture de ce matin, dans Exode 2, versets 11 et 12. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, 40 ans, nous dit Étienne, tu commences à être grand à 40 ans, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Moïse vient de changer de camp, là. Je veux dire, les Hébreux sont des esclaves. Il vient de tuer un des maîtres. Il vient de changer de camp complètement. Et cette histoire-là va tourner au vinaigre. Moïse va devoir se sauver en Égypte. Alors qu'il croit qu'il est le libérateur des Israélites, eux-mêmes ne vont pas le reconnaître comme libérateur. Il y a une espèce de pattern dans la Bible, hein? Dieu envoie un chef. Ce chef-là est méprisé. Ça va être l'histoire de Moïse. Tout le long de son histoire, même avec Israël, il va être méprisé. Et ça nous fait penser à Christ lui-même qui vient pour sauver le peuple d'Israël, puis qui est rejeté, puis qui est méprisé, finalement qui est crucifié. Mais Moïse a un cœur de libérateur. Il a un cœur de compassion. Il sent un appel sur son cœur d'aller aider les gens qui sont opprimés. Et dans ce sens-là, Moïse ressemble très, très bien à Dieu. Dieu a à cœur les opprimés. Dieu entend les cris de lamentation des opprimés. Et c'est vraiment une caractéristique de Moïse. Ça tourne au vinaigre, Moïse se sauve, arrive dans un autre pays, arrive à Madian, et on lit au verset 16-17, juste pour vous montrer le cœur de Moïse. « Le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chasseurs. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. » Moïse est toujours en train de défendre l'opprimé. Il sent qu'il y a un appel sur sa vie où il est appelé à aller défendre l'opprimé. C'est ce qu'il a voulu faire en Égypte avec ses frères, les Hébreux. Il fuit, c'est ce qu'il fait encore une fois, c'est son cœur. Mais avant d'entrer dans l'appel que Dieu a placé sur sa vie, Moïse doit passer par un exode personnel. Le livre d'Exode, c'est l'histoire de l'exode d'un peuple. Mais avant que leur leader puisse être utile, lui-même passe par un exode personnel. Il était prince dans la maison de Pharaon. Voulant intervenir, il tue un Égyptien. Comme je vous dis, il change de camp complètement. Pharaon déclenche une alerte pour le faire arrêter. Il veut s'en prendre à lui pour le tuer. Moïse doit se sauver. Pour sauver sa vie, il va se pousser. Il quitte. Et en fait, il va abandonner complètement son rêve. Il va abandonner complètement cette idée-là qui est appelée à sauver. Il s'en va à Madian et finalement, il va épouser une des filles de ce prêtre-là, de Réuel ou Jéthro, les deux noms sont utilisés. Il va épouser Séphora. Et regardez bien le nom qu'il va donner à son fils. Il va l'appeler Gershom. Gershom, ça veut dire étranger. Et donc, Moïse épouse Séphora, devient un berger, il va prendre soin des troupeaux de son beau-père et il va nommer son fils Gershom étranger. Moïse était prince dans la maison de Pharaon. Il croyait que Dieu l'appelait à libérer son peuple. Puis finalement, ça tourne au vinaigre, il se pousse, s'en va dans un autre pays et il dit « Voici, maintenant je suis un berger étranger dans une terre étrangère, mon fils va s'appeler étranger. » Moïse a renoncé à son appel. Il ne croit plus. Je fais juste une parenthèse vraiment intéressante. Moïse était prince dans la maison de Pharaon et il a fallu qu'il devienne berger d'un troupeau pour éventuellement être le berger du peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez à un autre personnage qui fait complètement l'inverse, David? David était berger, puis David est devenu roi pour prendre soin du peuple de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu dans la gloire éternelle, est devenu un homme, pour devenir notre berger, pour devenir notre roi. Moïse est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament une préfiguration de Jésus-Christ. David l'est aussi. Constamment, l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus nous dit, l'Ancien Testament parle de Christ, annonce la venue de Christ. Bien, Moïse pensait qu'il pouvait libérer son peuple parce qu'il était bien positionné politiquement, il avait la puissance et Dieu devait l'humilier. Dieu devait permettre qu'il devienne un berger dans une terre étrangère qui ne croit plus du tout à son projet. Mais remarquez que Dieu est en train de préparer son serviteur. Il avait confiance en lui, il avait une belle position, il croit discerner son appel dans la vie, et il va par lui-même, tout va mal. Tue un Égyptien, il est obligé de se sauver, il renonce complètement à son appel. Mais Dieu est souverain, Dieu est en train de le préparer. Dieu doit lui apprendre, écoute, ce n'est pas parce que tu es prince que tu vas réussir à libérer Israël. En fait, ce n'est même pas toi le libérateur d'Israël. Mais je vais me servir de toi. Il y a quelque chose de ton appel que tu as compris. Oui, ta vie est déjà extraordinaire, juste le fait qu'il a été sauvé. Donc Moïse avait commencé à discerner quelque chose sur l'appel dans sa vie, mais Dieu est en train de le préparer. Et ça, c'est vrai dans chacune de nos vies. C'est vrai dans chacune de nos vies. Quand on parle d'appel, quand on parle de vocation, bien, si tu es chrétien, déjà, ta première vocation, c'est de marcher à la suite de Christ. Ensuite de ça, certains d'entre nous sont appelés au mariage, d'autres au célibat. C'est un appel, c'est une vocation. À partir du moment où tu te maries, bien, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, maintenant, servir le Seigneur, c'est servir ton épouse, c'est servir ton mari. C'est ta vocation. Et si Dieu te donne en plus des enfants, maintenant tu es appelé à être parent. Puis on a des vocations professionnelles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu as un appel, tu as une vocation. Et Dieu est souverain dans ça. Dieu prépare nos vies. Vous allez dire, OK, Moïse, c'est extraordinaire, ça n'a pas rapport, on ne peut pas se comparer à ça. Bien, moi, je considère que je suis quelqu'un de très ordinaire. Je ne ressemble pas à Moïse. On ne va pas écrire des livres sur moi, puis je ne ferai pas partie de l'inspiration divine. Vous savez quoi? Quand je n'étais pas chrétien, mon épouse, ma future épouse Esther, alors que je n'étais pas chrétien, était en train de prier pour son futur époux. Donc, elle devait croire qu'elle était appelée au mariage. Il faut croire. Puis elle disait, « Seigneur, je te prie pour mon futur époux. S'il n'est pas chrétien, protège-le. » Elle priait pour moi. Puis elle disait au Seigneur, « J'aimerais marier un pasteur. » Bien, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard maintenant de mariage cet été, je suis pasteur. Et je vais avoir 52 ans cette année, j'ai un peu de recul sur ma vie, puis je regarde ma vie, puis je dis, si j'avais pas marché avec Dieu, qu'est-ce qu'aurait été ma vie? Parce que je regarde la souveraineté de Dieu dans ma vie, comment Dieu a dirigé à travers des souffrances, à travers des joies, à travers des échecs. Mais je vois la providence de Dieu sur ma vie pour répondre à un appel qu'il avait placé sur ma vie. À plusieurs appels, celui d'être chrétien, celui d'être époux, celui d'être père, celui d'être pasteur. Dieu a des appels sur ta vie et la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quoi? C'est la provision. Comment Dieu pourvoit souverainement, souvent de manière complètement invisible. Des fois, c'est avec des années de recul, tu dis, aïe, aïe, OK. Dieu avait sa main, c'est incroyable. Dieu est souverain, il est en train de préparer des choses. Je fais encore une toute petite parenthèse. Je ne veux pas aller trop loin avec ça parce que je trouve qu'il y a un danger dans ça, mais le président actuellement en Ukraine, puis je ne veux pas l'élever, certainement qu'il y a plein de défauts ce monsieur-là, mais il est à un moment vraiment particulier dans l'histoire. Mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire, c'est un acteur. C'est un acteur qui a fait une série dans laquelle il jouait un acteur qui devenait président. Littéralement. Puis il est président à un moment vraiment crucial de l'histoire de l'Ukraine. Cet homme-là, aujourd'hui, il doit se pincer. Puis je ne sais pas s'il croit en Dieu, mais s'il croit en Dieu, il doit dire, « OK, c'est toi qui enligne les étoiles, Seigneur. » Là, ça ne se peut pas. Là. Dieu a des appels sur ta vie et Dieu est souverain. Et Dieu pourvoit. Si tu as 20 ans, si tu as 15 ans, si tu as 13 ans, Dieu a des appels sur ta vie. Si tu as 40 ans, écoute, 40 ans, Moïse pensait qu'il avait trouvé son appel. Si tu as 80 ans, c'est le temps de passer à l'action. C'est là que Dieu va se manifester à Moïse. Dieu a des appels sur ta vie, littéralement. Et Dieu pourvoit, Dieu prépare. Dieu préparait Moïse, et pour qu'il devienne utile, il devait arrêter de se regarder comme un prince. Il devait se regarder comme un berger qui prend soin du troupeau de quelqu'un d'autre. Parce que c'était ça son appel, c'était d'aller prendre soin du troupeau de quelqu'un d'autre, du troupeau de Dieu. Il devait se regarder lui-même comme un étranger dans une terre étrangère, renoncer à son appel, renoncer à son rêve, pour enfin rencontrer celui qui allait vraiment lui faire connaître son appel. Puis on arrive au deuxième point ce matin, parce que là on a un autre personnage qui entre en scène, qui est en fait le personnage central de tout le livre d'Exode, c'est la personne de Dieu. Et Moïse et Israël et nous devons découvrir que le personnage central de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le personnage central de la vie de Moïse, c'est Dieu. Le personnage central de l'histoire d'Israël, c'est Dieu. Le personnage central de ma vie, c'est Dieu. Et je l'espère, le personnage central de ta vie, c'est Dieu. Ce personnage-là entre en scène. Puis on découvre Dieu, puis on découvre la prière. Cri de lamentation et cœur de Dieu. Il y a comme trois versets qui est charnière dans le récit, juste avant d'arriver au chapitre 3. Donc, Exode 2, versets 23 à 25. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous leur servitude. » Alors, Moïse intervient, il pense que c'est lui qui est appelé à délivrer. Il a 40 ans, il part, il s'en va au désert. Plus tard, on va apprendre que c'est 40 ans encore où il va vivre à Madian. Donc, longtemps après ça, Moïse pensait qu'il devait délivrer. Israël va souffrir encore longtemps. « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Israël continue à souffrir, ils sont maltraités et ils gémissent et ils se plaignent. Maintenant, à travers ça, il y a des cris qu'ils ont lancés au ciel. J'aime bien la traduction du sommeur. Souvent, je trouve qu'elle donne des éléments du texte qui ne sont pas là, qu'on ne voit pas dans notre traduction Nouvelle édition Genève. Dans la sommaire, voici comment c'est rendu. « Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. » Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Voyez-vous, ces cris-là, à un moment où ils ont crié au ciel. Ils ont crié au ciel pour avoir un secours qui vient de Dieu, parce qu'ils ne voyaient aucune issue. Les pharaons changeaient, les gouvernements changeaient, rien ne s'améliorait. Moïse a essayé d'intervenir, rien ne s'améliorait. Il souffrait et il se lamentait. Dieu entend les lamentations des hommes. Il y a toutes sortes de prières dans la Bible. Il y a des prières qu'on fait parce qu'on va chercher une promesse de Dieu dans la parole, puis on s'accroche à cette promesse-là. Il y a des prières qu'on fait pour intercéder en faveur de d'autres personnes. Et il y a des prières qui sont des cris du cœur qu'on lance au ciel en disant « Viens à notre secours, viens à mon secours. » C'est ça qui monte actuellement de toute la terre pour l'Ukraine. Mais non seulement pour l'Ukraine, je pleure puis je crie au Seigneur pour Haïti depuis des mois et des mois. Maintenant, lorsqu'on souffre, on peut avoir l'impression que Dieu n'entend pas. Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte, se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et dans ces trois versets-là, on apprend des choses sur Dieu puis on apprend des choses sur la prière. Il y a comme quatre mots qui résument comment Dieu répond à ces lamentations. Dieu a entendu. Dieu s'est souvenu de son alliance, Dieu a vu et Dieu a eu compassion. Maintenant, regardez le temps qui s'écoule. Longtemps, Israël a été en esclavage. Je veux dire, il y a des Hébreux qui sont nés et qui sont morts esclaves. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'entendait pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'interviendra jamais? Nous plaçons notre foi en Dieu non seulement dans cette vie, mais dans l'éternité. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, quels sont les domaines qui peut-être te font souffrir. Peut-être que tu cries à Dieu pour le salut de tes enfants. Peut-être que tu cries à Dieu pour une relation de couple qui est difficile. Peut-être que tu cries à Dieu pour ta santé. Peut-être que tu cries à Dieu pour l'Ukraine. Dieu entend les cris qui sont lancés au ciel. Dieu a entendu, Dieu s'est souvenu de son alliance, Dieu a vu et Dieu a eu compassion. J'aime bien cette citation d'un commentaire que je vais le citer souvent. Si ça vous tente de lire un commentaire en anglais sur Exode, vous m'écrirez, mais l'auteur c'est Alec Motyer. C'est pour moi un des commentaires les plus accessibles et les plus édifiants. Il dit « La lamentation au ciel du peuple de Dieu est le commencement de la délivrance parce que la prière amène Dieu dans cette situation. » Je répète ça. « La lamentation au ciel du peuple de Dieu est le commencement de la délivrance parce que la prière amène Dieu dans cette situation. » Je ne peux pas tout vous expliquer sur la prière. Je peux juste vous relater ce qu'on voit dans les Écritures. Dieu a décidé qu'il nous créait pour être en relation avec lui. Quand le texte nous dit « Dieu a entendu, Dieu s'est souvenu », je veux dire, évidemment, c'est une formule, c'est un langage qui est utilisé. Tu sais, Dieu n'était pas comme endormi, tout d'un coup son téléphone sonne, puis « Oh, OK, ça va mal, j'arrive », c'est pas ça l'idée. Dieu sait toute chose, Dieu n'oublie rien. Dieu n'est pas amnésique. Dieu voit la souffrance. Mais clairement, les Écritures nous disent que Dieu désire cette relation où nous nous tournons vers lui, où nous crions à lui, où nous espérons à lui, où nous le prions. Et on va voir ça tout au long du livre d'Exode, parce qu'Israël ne va pas retenir la leçon juste là. En fait, ils sont longs à apprendre. Mais d'une manière extraordinaire, quand nous allons plaider vers Dieu, Dieu est sensible à ça. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait monter des lamentations en toi actuellement? Peut-être qu'il n'y en a pas, ça viendra. La vie est difficile. Mais quand tu as ces lamentations-là qui sont là, ne doute pas que Dieu les entend. Ne doute pas que Dieu voit. Et si tu es chrétien, Dieu connaît l'alliance que tu as traitée avec lui. En Jésus-Christ. C'est ça qu'on va célébrer tantôt avec le repas du Seigneur. Tous ceux qui ont placé leur foi en Christ ont contracté une alliance avec Dieu. On va le voir tout à l'heure avec le pasteur Basile. Ne doute pas que Dieu a compassion et que Dieu va intervenir. Dieu a entendu, Dieu s'est souvenu, Dieu a vu et Dieu a eu compassion. Et continuons à prier pour les gens qui souffrent. Continuons à prier lorsque nous souffrons. Dieu est ce personnage principal et Moïse maintenant va le rencontrer. Moïse va le rencontrer et il va découvrir quel était vraiment son appel. Comme on a dit, hein, il pensait qu'il était appelé à délivrer le peuple d'Israël. Il essaie de ses propres forces, c'est la catastrophe, il doit se pousser à un point tel où il va nommer son fils étranger. Immigrant, il ne croit plus du tout à ça. Je me suis trompé, je suis désolé, j'étais dans la maison de Dieu. Je ne sais pas s'il y avait des regrets, il était un prince, il vivait dans la richesse. Il a pensé que Dieu l'avait placé là pour intervenir. Il arrive que Dieu le fasse, Dieu l'a fait pour Esther. Mais Dieu devait lui enseigner quelque chose, devait l'amener à être un simple berger pour ensuite se révéler à lui. L'Éternel, libérateur des hommes. Moïse avait un grand cœur, mais ce n'était pas lui le libérateur. C'est l'Éternel qui est le libérateur des hommes. Exode 3, versets 1 et 2. Révélation de l'Éternel. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, je vous ai dit Jéthro, Réuel, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. On reviendra à cette montagne-là plein de fois dans Exode. Horeb, c'est un peu une région, le mont Sinaï est là, d'accord? Donc c'est intéressant, c'est là que Dieu va premièrement se faire connaître et c'est là qu'ensuite le peuple d'Israël va être conduit. On va revenir à Horeb à plusieurs reprises à travers le livre d'Exode. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Dieu vient se faire connaître à Moïse et on apprend que cet ange de l'Éternel-là qui est présent, c'est en fait Dieu qui est présent, c'est lui qui va prendre la parole. On va revenir sur le feu aussi à travers Exode. Il y a des thèmes qui vont revenir à travers la langue de feu qui va diriger, la colonne de feu qui va diriger Israël. Mais Dieu vient se révéler à lui. Versets 4 à 6, « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. » Moïse est en train de s'approcher, il est curieux. « Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, « Moïse, Moïse! » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et à mon avis, cette terre-là n'avait rien de spécial, sinon le fait que Dieu était présent. Et par la présence de Dieu, cette terre-là est sainte. Et Moïse, en enlevant ses souliers, est en train de manifester l'humilité nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu. On reviendra aussi sur la sainteté de Dieu. C'est tous des thèmes qu'on va développer à travers Exode. Mais Moïse voit ce Dieu-là qui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac, de ton père Jacob. C'est moi qui me suis fait connaître à eux. » Et là, Dieu va dire à Moïse, « J'ai vu les souffrances. » Moi aussi, tu as vu les souffrances. Tu as cru que c'est toi qui devais délivrer. J'ai vu les souffrances d'Israël et je suis venu les visiter, je m'en viens maintenant les délivrer. Puis Dieu lui dit, je vais me servir de toi. Tu pensais discerner ton appel, c'est juste que tu pensais que c'était toi le libérateur. Tu n'es pas le libérateur, c'est moi le libérateur. Tu étais appelé à entrer dans un autre appel, celui d'aller vers le peuple pour les conduire ensuite. Puis là, Moïse va dire, « Oui, mais qui es-tu? Comment est-ce que je vais te présenter à Israël? » Le peuple d'Israël ne connaît pas vraiment Dieu à ce moment-ci. Dieu s'est fait connaître à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais le peuple d'Israël est en Égypte, et on va le voir, ne connaissent pas vraiment Dieu, probablement adoraient plusieurs divinités égyptiennes même, avaient intégré toutes sortes de choses, on va le voir à travers le livre d'Exode. Alors Moïse dit, c'est vraiment intéressant comment Dieu va se faire connaître à Moïse, Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, au verset 11, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Moïse dit, « Qui suis-je pour faire ça? » Dieu dit, « Pas toi, moi. Toi, t'es mon serviteur. Toi, t'es pas suffisant. » Moïse ne devait pas aller à Madian pour apprendre que Dieu allait le préparer à être le libérateur, l'équiper pour que là, il devienne super compétent. « Ouais, je sais, tu voulais les libérer, mais tu étais trop jeune, tu n'étais pas prêt. Je t'ai conduit là-bas, puis là, je t'ai équipé, là, tu vas être un super libérateur, tu vas être écœurant. » Non! Moïse a encore le réflexe. Il dit, « Oui, mais je suis qui pour faire ça? » Toi? T'es mon serviteur, c'est tout. C'est pas toi qui vas les libérer, c'est moi qui vais le faire. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu a placé des appels sur ta vie. Puis le moment où ça va mal, c'est quand tu regardes à toi-même puis tu te dis, « Comment je peux y arriver? » Puis le moment où ça commence à bien aller, c'est quand tu dis, « Je ne peux pas y arriver. » Mais avec Dieu, je peux y arriver. Que ce soit dans ton mariage où la relation est compliquée, difficile, que ce soit avec tes enfants, que ce soit au travail, Dieu a placé des appels dans ta vie, puis ça va vraiment mal quand tu dis, « Moi, je suis capable. » Tu es capable seulement si Dieu est là avec toi. Et ça commence à bien aller quand tu dis, « Je suis incapable. » Parce que si tu connais Dieu, c'est là qu'on a le réflexe de dire, « Seigneur! » Puis le Seigneur dit, « Oui, moi, l'Éternel, je serai avec toi, Moïse. » Moïse avait besoin d'apprendre qu'il n'est pas le personnage central de l'histoire. T'as beau être un prince dans la maison de Pharaon, tu n'es pas le personnage central de l'histoire. Dieu t'a donné des dons, des talents, tu es compétent, je ne sais pas, tu es à l'école, tu es doué. Tu n'es pas le personnage central de l'histoire. Dieu t'a outillé pour le servir, pour le glorifier. Je veux dire, c'est l'histoire de toutes les catastrophes humaines. On se regarde dans le miroir et on dit, j'ai des compétences, j'ai du potentiel, j'ai des opportunités, je vais faire quelque chose. Non! Tu n'es pas capable de te sauver, c'est Christ qui l'a fait pour toi. Et si tu veux que les choses se passent bien, laisse Dieu au centre de ton histoire. Et donc Moïse dit, qui suis-je? Toi? Tu es un serviteur que j'ai choisi, c'est tout. Est-ce que j'aurais pu prendre un autre serviteur? De toute évidence. Il aurait pu prendre des pierres, c'est ce que les Écritures nous disent, pour parler. La réponse, c'est moi. Qui suis-je, dit Moïse? La réponse de Dieu, c'est moi. Yahweh. Et là, Moïse va lui demander, oui, mais comment tu t'appelles? Comment je te présente? Là, il dit, je suis celui qui suit. Ce mot-là énigmatique, ce nom-là sur lequel on reviendra, Yahweh, que les Juifs ont décidé même de ne pas prononcer. C'est allé très, très loin. Les Juifs ont tellement décidé de ne pas le prononcer qu'éventuellement, ils l'ont appelé Adonai au lieu, Seigneur. Et si vous lisez, si vous êtes habitué de lire la Bible en anglais, souvent, vous avez le nom Seigneur écrit avec quatre lettres majuscules. C'est Yahweh qui est là. Les Bibles anglaises ont décidé de ne pas se servir du mot Yahweh. Les Bibles en français, on a l'Éternel qui est là. L'Éternel, pour essayer de représenter cette idée-là du Dieu qui est. Je suis celui qui suit. Je suis, j'existe. J'existe non seulement hors du temps, parce que je suis éternel, l'Éternel, mais je suis. Je suis celui qui est insaisissable. Je suis celui que tu ne pourras pas appréhender, que tu ne pourras pas comprendre, que tu vas découvrir pour l'éternité. Je suis. Et ce qu'on va voir ensemble dans Exode, c'est que Yahweh vient se comparer au Dieu des Égyptiens. Et c'est ça qu'on va voir à travers les 10 plaies. Il vient leur montrer, ces dieux-là sont des inventions humaines. J'ai le goût de vous dire, si vous êtes capable de définir Dieu, vous savez déjà que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous pensez que vous appréhendez, vous comprenez la personne de Dieu, ce Dieu-là est un Dieu de votre invention. Parce que ce qu'on trouve dans la Bible, même à travers la personne de Jésus-Christ, où j'ai la manifestation la plus concrète de la personne de Dieu, Jésus va dire lui-même, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » C'est ce qu'il dit dans Matthieu. Jésus lui-même dit, « Tu ne peux pas me sonder, tu ne peux pas me comprendre parfaitement. » En fait, grandir dans la foi, c'est grandir en émerveillement devant la personne de Christ. Grandir en émerveillement devant la personne de Dieu. Puis dire, Seigneur, je ne te pensais pas aussi grand. On vient de terminer, on est en train de terminer le livre de Job dans notre plan de lecture. Puis c'est ça la conclusion de Job. Je pensais que je te connaissais, mais là je réalise que tu es encore tellement plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Et donc Dieu va se présenter à Moïse en disant, je suis celui qui suis, Yahweh. Et c'est ça que tu vas leur dire. Et ce qui va faire la différence dans ton histoire et dans l'histoire d'Israël, ce n'est pas toi, Moïse, c'est moi. Car j'ai décidé de venir libérer mon peuple. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Dieu avait un appel sur la vie de Moïse. Dieu avait un appel pour Israël. Et Moïse et Israël doivent découvrir qu'ils ne sont pas les personnages centraux de leur histoire. Et Moïse et Israël doivent découvrir la personne de Yahweh, doivent découvrir l'éternel Dieu. Et en découvrant qui est Dieu, Moïse va commencer à devenir un serviteur qui va pouvoir entrer dans son appel. Lorsqu'il a essayé d'être libérateur par lui-même, ça a été la catastrophe. Mais lorsqu'il fait la rencontre de Yahweh, lorsqu'il découvre Dieu et qu'il laisse Dieu le diriger, il va pouvoir entrer dans son appel. Il n'arrive même plus à y croire. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui vais être là avec toi. Et là, il va pouvoir devenir un serviteur utile. Dieu a placé des appels sur ta vie. Dieu a placé des appels sur ta vie. J'espère celui de devenir chrétien. Si tu n'es pas chrétien, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé à l'être. Hein? Mon épouse Esther priait pour moi avant que je sois chrétien. Je t'ai appelé à être pasteur avant même que je sache que je t'ai appelé à être chrétien. Donc Dieu a placé des appels sur ta vie. J'espère celui d'être chrétien. Peut-être celui de te marier, peut-être celui au célibat. Dieu t'a donné une vocation, des vocations. Et tant aussi longtemps que tu vas croire que tu es le personnage central de l'histoire, tu ne pourras pas devenir un véritable serviteur. C'est vrai dans toutes les vocations qu'on a. Je vais juste vous donner deux, trois exemples, puis on va terminer avec ça ce matin. Je vais vous donner un exemple qui peut-être va vous choquer. Un domaine qui est jugé sévèrement par les chrétiens, c'est toute la profession du mannequinat, être mannequin, n'est-ce pas? On trouve ça superficiel, on trouve ça souvent déluré, des fois débauché. Mais est-ce que c'est quelque chose de malsain en soi? Je veux dire, quand moi je vais magasiner un veston pour aller avec ma moustache, j'aime bien qu'il y ait un mannequin qui m'ait montré dans un magazine de quoi a l'air ce veston-là. Est-ce qu'il y a un problème avec l'idée d'être un mannequin qui porte du linge, qui montre du linge aux gens? Il n'y a pas de problème avec ça. Si tous les mannequins de la Terre entraient dans leur vocation, leur profession, après avoir rencontré Dieu, puis en le faisant pour vraiment servir les gens, ça se ferait très différemment. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, ça, c'est un exemple. Peut-être que tu es mécanicien. Si tu penses que tu es mécanicien pour avoir un salaire, pour pouvoir faire vivre ta famille uniquement, puis avoir tes fins de semaine de congé, ça ne fonctionne pas. Mais si tu comprends que tu es là pour glorifier Dieu dans cette vocation-là, puis que la manière que tu vas faire ton travail va faire toute la différence, parce que tu vas vraiment être en train de rendre service à des gens, puis si tu es chrétien, tu le fais pour la gloire de Dieu. Si tu es un artiste, tu aimes faire de la peinture, tu aimes peindre, c'est ta vocation, mais que tu le fais en connaissant Dieu puis en voulant apporter de la joie, de l'inspiration, du bonheur aux gens autour de toi. Si tu es marié, puis tu te dis, « Moi, je me suis marié pour être heureux. Je me suis marié pour être comblé, puis ce mariage-là ne me comble pas. » Ou pire encore, « Moi, je le sais comment ma femme devrait être. Je vais la sauver. Je fais un Moïse de moi-même. Je vais t'aider à changer. » J'ai besoin de rencontrer Dieu, d'arriver au bout de moi-même, de remettre Dieu au centre de l'histoire, puis de dire, je suis là pour glorifier Dieu et je suis là pour te servir, chérie. Parce que c'est ça ma vocation, c'est ça mon appel. Le Seigneur va nous faire grandir à travers le livre d'Exode. On va s'identifier parfois à Israël, parfois à Moïse, parfois peut-être à Pharaon. Mais ce qu'on veut surtout, c'est ramener Dieu. Yahweh, je suis celui qui suis, au centre de nos vies, de nos appels, de nos histoires. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, quelle grâce d'étudier le livre de Moïse, quelle grâce d'étudier le livre d'Exode, l'histoire de Moïse, après ta venue, Jésus. Et de voir toutes les imperfections de ce serviteur exceptionnel, Moïse, va être tellement impressionnant par moments de foi, de courage, de don de soi, de renoncement à lui-même. C'était un homme au cœur de libérateur. Mais quelle grâce, Seigneur, d'étudier cette histoire en connaissant le vrai libérateur, Jésus-Christ. Le véritable Moïse qui nous libère non seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché. Seigneur, viens parler à nos cœurs à travers cette série dans les prochains mois. Viens prendre le centre de notre histoire, Seigneur. Et ce matin, nous venons te rencontrer, Seigneur, en prenant ce repas avec toi. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.